Tov. On va commencer, Bezrat Hashem, je vous très merci de me recevoir une fois de plus à Eli. Aujourd'hui, je suis venu accompagner l'un de mes élèves et amis, qui a tenu à que je ne sois pas seul. Alors, il ne sait pas que je parle de lui, il ne comprend pas l'hébreu. Je fais exprès. Ken. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un degré qui est un petit peu hors du commun, mais qui, je pense, est très important pour la compréhension de la manière que l'éternité a pour accéder à notre monde, c'est-à-dire pour se dévoiler dans notre monde. Nous savons que l'un des buts de la création, c'est de dévoiler les valeurs de l'infini dans le monde fini. Ça veut dire que c'est comme un jeu. Akadosh Baruch Hu crée le monde, c'est l'infini, béni soit-il. Et dans ce monde, qui est limité, qui est structuré, qui est basé sur des notions de temps, d'espace et d'homme, eh bien à l'intérieur de ça, il nous laisse en fait comme une petite case dans tout cet univers, dans tout cet infini, pour dévoiler en fait ces mêmes valeurs, mais cette fois-ci par notre participation, qu'on appelle la malchoute. La malchoute, c'est la royauté divine sur terre, et sur la malchoute, il est dit « ou malchuto beratzon kiblo alei ». C'est-à-dire que dès que nous parlons de malchoute, on ne peut pas parler de force. On est obligé d'être participant au dévoilement de cette malchoute. En aucun cas, la royauté de Dieu ne peut se dévoiler dans ce monde si ce n'est qu'avec notre participation humaine, notre bon vouloir. Et donc, moi je pose une question très simple. Comment est-ce possible que l'infini, que les valeurs de l'infini se dévoilent dans notre monde fini? Notre monde, lui, il est mesuré. Il est avec des frontières, il est avec des limites. Comment est-ce que l'infini, qui est par définition non limité, se dévoile dans un monde qui, lui, par définition, est dans les limites? La réponse est qu'il faut un intermédiaire, un interphase, qui soit en fait ressemblant et à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut un intermédiaire qui fasse le lien entre ces deux degrés, entre l'infini et le fini. Cet intermédiaire, pour ressembler en fait, pour pouvoir recevoir, il doit ressembler au donneur. Je vous donne un exemple. Si je veux, moi, ressembler à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois devenir comme lui. Mais je ne peux pas devenir comme lui. Mais je dois utiliser les moyens que lui m'a montré qu'il utilise. En l'occurrence, le don. C'est-à-dire, quand je deviens moi-même donneur, c'est là où je ressemble le plus à Kadosh Baruch Hu. Tant que je suis receveur, je limite en fait sa capacité à me pénétrer, à me remplir. Dans le langage de nos sages, dans la Kabbalah, ça s'appelle « Hishtavut Hatsura ». C'est-à-dire que ma forme humaine est identique à la forme divine qui est le don. Donc si un donneur trouve un donneur, il lui fait passer. Autrement dit, si je suis donneur dans ce monde, par exemple, je suis en train de donner maintenant, eh bien, Akadosh Baruch Hu m'utilise, donc il fait passer par moi ses valeurs, parce que moi aussi je joue son rôle à lui dans ce monde. Je fais ce qu'il doit faire, ce qu'il fait lui à travers moi. Moralité de nous tous ici, c'est moi qui suis en train d'étudier le plus et qui reçois le plus parce que je suis en train de donner. Moralité, quand tu reçois, tu es limité à ce que ton cerveau peut recevoir. Mais quand tu es en mode de don, bien, l'infini passe par toi comme un canal. C'est comme un verre. Un verre, c'est celui qui reçoit. À partir du moment où il est rempli, c'est fini, il ne peut plus. Mais un tuyau, il reçoit toutes les eaux. Et ça continue à le traverser, ça passe par lui. Mais ça, c'est le secret dans ce monde. Et ce secret-là, il a une forme, il a une identification avec le donneur. En hébreu, on dit « matza min et mino ». Une forme a trouvé sa correspondance, et donc elle se marie. Donc Akadosh Baruch Hu doit trouver une correspondance dans ce monde qui correspond entre guillemets à sa nature divine pour pouvoir écouler le message, faire passer le message dans notre monde. Et les sages viennent nous dévoiler un secret. C'est que dans ce monde physique, matériel, de forme, dans lequel nous sommes, il y a une forme, et vous allez voir, c'est une forme géométrique, qui correspond au dévoilement du divin dans notre monde. Cette forme, c'est le triangle. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, pour se dévoiler dans notre monde, passe par la forme triangulaire obligatoirement. Ça veut dire que dans ce monde, il y a déjà 3 degrés qui gèrent le monde dans lequel nous sommes. Ces 3 degrés sont le temps, l'espace et l'homme. Voilà les 3 degrés par lesquels Dieu descend dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu va trouver un temps qui correspond à sa nature, encore une fois, pour pouvoir passer à travers lui. Il va trouver un espace qui correspond lui aussi, entre guillemets, à sa nature divine pour passer à travers cet espace. Et il va trouver un groupe d'hommes, une manière d'être homme, qui correspond à sa nature divine, et par ces hommes-là, il va passer pour, en fait, faire passer son message dans le monde.
L'espace, c'est un lieu.
Bien entendu, on parle de la terre d'Israël. Mais ces 3 degrés ont un dénominateur commun. Ils sont tous triangulaires. Et je vais maintenant développer ce que ça veut dire. Alors, la Gemara nous dit, dans le traité de Shabbat, à la page 85, que le peuple d'Israël, que Dieu utilise pour faire passer son message dans ce monde, s'appelle le peuple triangulaire. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Am Israël s'appelle, je vous le dis en araméen, Am Telitaï, le peuple triangulaire. Donc Dieu a trouvé dans ce monde un peuple qui est fabriqué dans sa structure intérieure comme un triangle. Il faut encore comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que tout simplement notre façonnage intérieur, toute la structure que je vais trouver dans ma vie, ressemble à un triangle. On va commencer par donc le peuple d'Israël. Qu'on vient de le citer, la Gemara le cite en premier, eh bien il s'appelle le peuple triangulaire parce que d'abord il est fabriqué de 3 niveaux, Kohanim, Lévim et Israélim. Déjà 3 niveaux, ça veut dire que nous sommes un triangle. Notre structure intérieure est obligatoirement par 3. S'il y avait 1 degré en moins, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que dans 1 degré en moins, c'est-à-dire le 2, nous sommes dans la dualité. Dans la dualité, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler. Akadosh Baruch Hu, en réalité, c'est le 3e point qui fait le lien entre la pluralité de ce monde. Or, la pluralité, c'est 2, c'est le minimum du pluriel. Donc, Dieu ne peut pas se dévoiler si ce n'est que dans l'entre-deux. Toujours. Comme nous le disons pour un homme et une femme, Ish ve'isha shezachu, Shrina benehem. C'est-à-dire que la Shrina se trouve entre lui et elle. Donc il y a lui, il y a elle, et il y a un 3e élément, encore une fois, pour trouver un triangle. Je suis obligé de trouver un triangle. Tout le temps. Donc cherchez le triangle partout. Quand vous trouvez le triangle, vous trouvez le moyen de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans votre vie. Et je vais développer tout ce ignan du triangle. Alors nous avons vu Cohen, Lévi et Israël. Mais, contrairement à un homme individuel qui a un seul père, nous avons combien de pères? 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que même notre base de structure, notre matrice, elle est triangulaire puisque nous avons 3 papas. Nous avons certes 4 mamans. Nous sommes dans un complexe énorme. Avoir un père et une mère, ça va. Mais 3 pères et 4 mères, je ne vous laisse même pas, Ken, réfléchissez par quoi nous devons passer pour arriver à comprendre notre structure et notre identité. Pas facile. Mais toujours est-il que nous avons Shlosha Avot. Et la Gemara précise On n'a pas le droit de dire qu'on a plus que trois. En avot el ashlosha. Interdiction, attention. Ça veut dire que notre structure, et là aussi, il y a un appui volontaire de nos sages, de nous faire comprendre que notre structure de base doit être triangulaire. On n'a pas le droit de sortir de ça. Moshe Rabbeinu, qui est l'intermédiaire pour dévoiler le message du divin, ben, si vous regardez en réalité, lui aussi, il est sorti d'une structure qui est triangulaire. Puisque Moshe Rabbeinu, c'est le troisième fils à partir de Lévi. Lévi, c'est la tribu. Donc Lévi, Amram, Moshe. Donc Moshe n'est pas seulement le troisième, mais lui-même, il est triangulaire. Et si vous prenez que dans sa famille, bien, il est le troisième fils. Après Aaron et Myriam, il est le troisième. Ça veut dire que je vous ai déjà donné quelques clés d'un triangle. On est toujours dans le 3. C'est très bizarre. En plus de cela, Moshe a été appelé, entre guillemets, Moshe, parce que la fille de Paro, Bithya, adoptive, elle dit un terme, elle dit une expression, Ki min hamaim meshitiu. Je l'ai tiré des eaux. Ça veut dire que Moshe vient de quel élément? De l'eau. Je l'ai sorti d'un élément qui s'appelle l'élément eau, le liquide. Or, moi, je vais chercher l'eau, en hébreu. Maïm, ça s'écrit mem, yud, mem. Donc, dans le mot maïm, il y a la structure de l'eau. C'est-à-dire, il y a deux fois mem, une fois yud. Mem, en hébreu, c'est meiman, c'est-à-dire l'hydrogène. Et le yud, c'est la partie oxygène. Donc, deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. C'est l'eau, H2O. C'est-à-dire, le mot maïm, en hébreu, c'est la structure de l'eau. Donc Moshe vient d'une structure liquide qui s'appelle l'eau. Or, la valeur numérique de Maïm, même Yud, même c'est 40, donc 2 fois 40, c'est 80, plus Yud 10, 90. Donc 3 fois 30. Encore une fois, une structure triangulaire parfaite. Ça veut dire que Moshe lui-même, dans sa structure de base, vient du liquide qui est l'eau, qui elle-même, cette eau-là, qui d'ailleurs en hébreu est toujours au pluriel, car si elle devient au singulier, c'est déjà une question. D'ailleurs, le singulier de Maïm, c'est Ma. D'accord? Donc, comme en arabe, l'ma, l'eau. Et donc, au pluriel, ça devient Maïm. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est la structure triangulaire qui vient de l'eau. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, dans la Torah, la Gemara pose la question, où est-ce qu'on a trouvé Moshe dans la Torah? C'est une question bizarre, non? La Gemara pose la question, comme je suis en train de vous la poser. Moshe mina Torah minai. C'est une grande rigolade. Et partout tu trouves Moshe dans la Torah. Mais la Torah ne va pas chercher Moshe là où on dit le mot Moshe. Elle va le chercher dans une paracha où Moshe n'existe même pas, apparemment. Dans la paracha de Noah. Très bizarre. Maintenant vous comprenez. C'est-à-dire que Moshe, il est dans quel élément? On vient de le dire. Dans l'eau, il est dans le liquide. Il est en réalité dans une génération, et c'est toujours Moshe. Donc oubliez Moshe le bonhomme, pensez Moshe la puissance. C'est-à-dire qu'un Talmid Racham, aujourd'hui, s'il donne un grand chidouche de Torah, comment je peux le surnommer? Moshe. Et d'ailleurs, quand dans la Gemara, un Talmid Racham donne un chidouche, comment on l'appelle? On l'appelle Moshe. On lui dit, Moshe, t'as bien parlé, alors qu'il s'appelle David. Ou Shlomo. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est l'expression générale de quelqu'un qui est dans la construction. Ce n'est pas le nom, le prénom de quelqu'un. Il faut bien comprendre. D'ailleurs, Moshe avec tous les prénoms sauf Moshe. Moshe, c'est un nom égyptien qui veut dire le fils d'eux. Alors que la Gemara, elle dit ses véritables noms potentiels, comme Avigdor, Touvia, il y a plein de noms. Mais pas Moshe. Pourquoi on l'a appelé Moshe? Parce que c'est un nom global, comme les Havdil chez le Pharaon. C'est pas un prénom, le Pharaon. C'est le nom du roi. D'ailleurs, Moshe aurait pu devenir le prochain Pharaon. On aurait appelé le Pharaon Moshe. C'est là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, d'après les sages, il se trouve dans la Torah, dans la paracha de Noach. Donc il était en attente dans l'élément liquide. Et pourquoi exactement dans la paracha de Noach et pas et ailleurs? Mais parce que les sages dans la Kabbalah nous enseignent qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu de donner la Torah à quelle génération? À la génération du déluge. C'était la première tentative du don de la Torah. Rappelez-vous, la Torah, elle est descendue du ciel pendant combien de temps? 40 jours. La fois de Moshe est monté pour recevoir la Torah, 40 jours. Combien de temps la pluie du Maboul est tombée? 40 jours. Ça veut dire qu'au départ, ce n'était pas un Maboul, c'était de l'eau. Une fois que la génération n'était pas méritante, c'est devenu un Maboul. Ça veut dire que le monde à cette époque-là ne s'est pas construit en forme de triangle, donc il était incapable. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a laissé dans l'eau jusqu'à une autre génération où la fille du Pharaon, Bithia, va le sortir de cette fameuse eau. Qui a été d'ailleurs sauvé à l'époque du déluge? Seulement ceux qui étaient où? Dans l'arche. Or, l'arche était à combien de niveaux? 3. Ça veut dire que l'arche, c'était un triangle. Le seul élément dans ce monde, encore une fois, qui est capable de contenir la lumière divine sans exploser, sans brûler. Donc à chaque fois que tu veux recevoir Akadosh Baruch Hu, tu dois te mettre en triangle. Vous comprenez? Ça veut dire que les 3 degrés de la Teva de Noach, c'est une structure. Et Noach lui-même, quel âge avait-il quand il rentrait dans l'arche? 600, c'est-à-dire 2 fois 300. Encore une fois, une forme triangulaire multipliée par 2, c'est-à-dire que Noach s'est mis en 2 triangles superposés, c'est-à-dire le Magen David. Donc l'arche de Noé, pour protéger en fait le monde du déluge, le petit monde qui a été sauvé, c'était un Magen David. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les kabbalistes, pour être protégés de certaines choses, ils forment un Magen David et ils rentrent dedans, au niveau de l'esprit. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, tout est structuré. On avance. On arrive maintenant à la période du don de la Torah. Quel mois a été donné la Torah? Sivan, c'est le combienième mois? Le troisième. Parce que le premier mois, c'est Nissan, Iyar, Sivan. Encore une fois, donc la Torah est donnée, même au niveau temporel, dans le mois triangulaire. Bizarre. Quel jour elle a été donnée, la Torah? Pas le sixième? Non? Il y a marqué Heyu Nechonim, citez les versets. Heyu Nechonim Layom Hashlishi. La Torah nous dit, soyez prêts pour le troisième jour. C'est bizarre. Alors que le troisième jour, effectivement, c'est quel jour dans la semaine? Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, c'est pas le week-end. C'est l'élément triangulaire qui est au centre de la semaine. Donc avant le Shabbat, il y a 3 jours. Après le Shabbat, il y a 3 jours. Exactement comme la menorah. Donc la menorah, elle aussi, c'est l'expression de la lumière divine. Elle est obligée d'être sous forme de 2 triangles. Seulement, vous voyez des branches. Et la menorah elle-même, dans sa structure intérieure, elle est formée de quoi? 2 branches, kanim, 2 prachim, 2 fleurs, et 2 gvim, des cloches. Okay? Ça veut dire, elle-même, dans sa structure intérieure, divisée, subdivisée, subdivisée, tu trouves que des trois. Bizarre. Donc Shabbat, c'est un triangle. D'ailleurs, Shabbat, combien de seudot vous avez la mitzvah de faire? 3. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de former une structure, de la retrouver en tous les cas, triangulaire. Et celui qui ne fait pas les 3 Seudot Shabbat, il y a marqué qu'il n'est pas sauvé de la guerre de Gog ou Magog. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il tombe dans un piège où il est sorti du triangle lui-même. Bien entendu, on fait toujours référence à quelle Seuda, celle qu'on ne fait pas, parce qu'il faut une grande Nefirut Nefesh pour la faire, Seuda Shishit. Mais on ne te demande pas de manger des tonnes, c'est juste de faire ce qu'il faut, le minimum, pour être dans ce triangle-là. C'est-à-dire, dessine-moi un triangle Shabbat. Et si tu ne dessines pas un triangle, je ne peux pas te protéger. Les lettres, d'ailleurs. Vous avez une lettre qui vous montre que c'est véritablement un triangle? La lettre Chine. C'est 3 vaves, 3 branches réelles. Ça veut dire que si tu es issu de ces 3 branches de ce triangle, bien tu es protégé. Donc comment est-ce que je peux appeler le mot Shabbat? Bat, c'est la fille du Shin. Donc Shabbat, c'est la fille des trois branches, c'est-à-dire la fille du triangle. Donc Shabbat, je peux traduire textuellement la fille du triangle, la fille des trois branches. Et si tu ne vis pas ton Shabbat, c'est-à-dire si tu ne te présentes pas en tant que triangle, tu ne peux pas être protégé. Donc celui qui observe le triangle, c'est celui qui observe le Shabbat. Donc les trois Seoudot en a parlé. Et en plus de ça, quand on loue à Kadosh Baruch Hu, qu'on demande qu'il se dévoile dans ce monde, c'est-à-dire la sainteté, comment ça s'appelle la sainteté, la Kedusha? Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Nakdishar venaharitsar, kenoam siar sod sarfei kodesh. Comment est-ce qu'on peut te glorifier dans ce monde comme les anges? Hameshaleshim. Qu'est-ce que ça veut dire meshaleshim? Triangulaire. Meshulash. Lecha Kedusha. C'est-à-dire, si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu vienne dans ta vie, tu dois dire trois fois Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Encore une fois, tu dessines un triangle. Ça devient la rajette, hein. C'est-à-dire, il n'y a que des triangles. Tout est triangulaire. Tout ce que tu vois dans ta vie, dans le judaïsme, c'est un grand triangle. Et si tu sais le retrouver, ce triangle, et là, je vous aide à vous donner quelques clés, mais c'est énorme. C'est une étude qui est énorme pour retrouver en réalité ces trois degrés. D'ailleurs, l'homme, la structure humaine, Adam, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Adam? À chaque fois que le nom de Adam apparaît, c'est une notion de tikkun, de réparation. Le peuple d'Israël est appelé Adam. Atem kruim Adam, ve'en umot ha'olam kruyot Adam. Les nations du monde ne peuvent pas s'appeler Adam parce qu'elles ne sont pas triangulaires. Seul le peuple qui est triangulaire doit s'appeler Adam. Donc Adam doit être composé de trois lettres comme Moshe. On ne peut pas plus. C'est-à-dire que le monde, l'histoire du monde, c'est Adam. Qu'est-ce que c'est Adam? Ben, ce sont les trois clés du monde. Aleph, Dalet, même. Aleph, c'est Adam lui-même. Dalet, c'est le roi David. Et M, c'est le Mashiach. Ça veut dire que l'humanité tout entière est composée de ces trois bonhommes. C'est-à-dire du même bonhomme qui apparaît avec de nouveaux déguisements. Adam Arishon va revenir sous la forme de David, qui va revenir sous la forme du Mashiach. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est très important de le savoir. C'est que la distance, le temps qui sépare Adam de David, c'est exactement la même qui sépare David du Mashiach. C'est facile. Puisque nous savons exactement combien de temps s'est passé entre Adam et David, multiplié par deux, ça fait 5708, 1948, la création de l'État d'Israël. Bizarre. Les sages nous disent, c'est la Kabbalah. Hein. C'est-à-dire, les sages dans la Kabbalah nous disent qu'en 1948, c'est le dévoilement premier du Mashiach. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait une erreur de venir ici. C'est ici que ça se passe. Seulement, on n'arrive pas à concevoir parce qu'on est en plein dans le mouvement, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas les yeux pour voir et on est tout le temps pris de petites ou grandes paniques à chaque fois qu'il se passe quelque chose et on perd un petit peu les pédales. Il faut tout simplement se calmer et recevoir une piqûre de un calmant pour comprendre que tu es dans le processus et arrête de paniquer, arrête. Akadosh Baruch Hu est le dirigeant de cette histoire, il sait exactement ce qu'il fait. Et donc moralité, à chaque fois qu'on te dit Adam, comment est-ce que nous sommes formés, dit le Zohar, en trois parties, c'est-à-dire la main droite, la main gauche et la centralité. Donc à chaque fois je dois me déployer et avancer dans ma vie en faisant l'équilibre entre les deux. Donc tous les matins, ma main droite, qui représente la bonté, doit attacher ma main gauche qui représente la rigueur pour ne pas que celle-ci deviennent folles. Donc tous les matins, j'attache ma main. Et en attachant la droite qui attache la gauche, Abraham est en train de ligoter Yitzhak dans mon propre corps. Et je trouve l'équilibre qui s'appelle Yaakov, qui est en réalité ma centralité. Dans la Kabbalah, Midat Atif Eretz, la splendeur qui est les mêmes lettres que thérapie, c'est-à-dire la bonne santé, c'est l'équilibre central. Chaque fois que tu es dans une extrême, ici ou ici, tu es malade. Ce que je viens de vous dire, ça s'appelle, dans le langage de nos sages, le nom de la délivrance. Encore une fois, un triangle, mais cette fois-ci, on nous donne en plus l'angle. C'est un angle à 45 degrés. Okay? Donc, à peu près ça. Et donc tu fais un triangle avec un angle, avec deux angles à 45 degrés, et c'est en réalité l'homme. L'homme est un triangle à 45 degrés. Pourquoi je dis ça? Mais tout simplement parce que la valeur numérique de l'homme, Adam, c'est 45. Et 45, c'est la même valeur numérique que Géoula. Bizarre. Ça veut dire que l'homme égale Géoula, s'il sait se comporter en triangle. Quand tu as fait de la géométrie, le prof ne t'a jamais dit « à partir d'aujourd'hui, tu es un triangle ». Mais dans la Torah, oui. Quand tu étudies un domaine, tu dois devenir le domaine que tu es en train d'étudier. C'est pas que tu as entendu un cours sympathique et tu es parti chez toi. Non, je mange maintenant le triangle et je deviens moi-même ce triangle qui évolue en réalité dans un processus de Géoula. Et donc, quel est le véritable sens de Géoula? C'est 45. Donc, qu'est-ce que c'est 45? Transformez-le en deux lettres. Ma. Mem. He. Donc, quand est-ce que tu es dans un processus de Géoula? Quand tu te poses des questions. Quand tu deviens toi-même une question. Et quand tu prends un angle à 45 degrés. Qu'est-ce que c'est un angle à 45 degrés? C'est quelque chose qui est toujours en train de tomber. D'accord? Comme le Aleph. Le Aleph, il est à 45 degrés. C'est-à-dire que l'homme, c'est celui qui est tout le temps en train de tomber, mais parce qu'il tombe, il avance. Alors que si on était debout, droit, on aurait été statique, et ça, c'est pas un homme, c'est déjà les anges, ils s'appellent Omdim. Alors que l'homme est tout le temps en train de marcher. Pour marcher, il faut tomber à chaque fois. Donc n'ayez pas peur de marcher, à chaque fois on tombe et on se repose sur le pied d'après. C'est comme ça qu'on avance. Donc en réalité, quand vous êtes en déséquilibre, vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Et si vous cherchez tout le temps l'équilibre, en réalité, vous êtes paralysé. Vous comprenez? C'est incroyable. Ça veut dire que dans tout ce processus-là, même les chutes font partie du dévoilement. Sheva Ipol Sadik Vekam. L'homme lui-même, il est structuré de ces trois niveaux. On appelle ça Roche, Toch, Sof. C'est-à-dire la tête, le tronc, et les pieds. Encore une fois, trois niveaux, encore une forme triangulaire. Même si elle n'est pas visible à l'œil, mais il faut que tu saches qu'il s'agit de trois étages. La structure basique de notre Neshama elle-même, Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a encore deux niveaux, mais ils sont en dehors du corps, d'après les kabbalistes. Chaya et Yechida. Le corps lui-même contient les trois. Nefesh, Ruach, Neshama. Encore une fois, une structure triangulaire, c'est-à-dire que la Neshama est triangulaire. Le monde dans lequel on vit, les 6000 ans que ce monde doit exister tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas qu'après il y a la fin des temps. Quand vous employez le terme la fin des temps, vous êtes en train de fauter déjà. C'est interdit, c'est la chrétienté. Il n'y a pas de fin des temps dans le judaïsme. Ça n'a jamais eu lieu, c'est des traductions faussées d'un type qui a traduit, et tout le monde derrière lui comme des moutons. En hébreu, le terme, c'est « acharit hayamim », c'est-à-dire les, l'après, « acharé ». Parce que si tu dis la fin des temps, sous-entendu apocalypse, donc tu tombes dans la chrétienté, le monde va être détruit. Ça n'existe pas. « Ha'aretz le'olam omedet ». La terre est existante à jamais. Ne tombez pas dans ces pièges qui ne veulent rien dire. Et après le 7e millénaire dans lequel nous sommes en train de rentrer, il y aura le 8e millénaire, le 9e millénaire, le 10e millénaire. Allez voir ce que le Ramchal écrit dans son livre de Kabbalah. Donc dans ce monde, nous sommes dans un monde de pluralité. Et c'est ça notre problème. Avec quelle lettre la Torah commence? Bet. Donc Bet, c'est pas 3, c'est 2. Donc j'ai un problème. Si je reste dans ce 2-là, je suis foutu. Si je reste dans cette pluralité, dans cette dualité, je suis foutu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce 2? Retrouver le troisième élément pour faire le triangle. Donc retrouver l'unité. Revenir vers cette unité. Donc effectivement, je nais, j'apparais dans un monde de pluriel, de 2, mais je dois arriver à l'unité. Quand tu restes dans le 2, tu es malade. Vous savez qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour? Le Géhennom, l'enfer. Alors que le troisième jour, il y a marqué deux fois Tov dans la Torah. On dit pas Amaim ki Tov, c'est une expression même en hébreu. Ça veut dire qu'en réalité, si tu restes dans la dualité, t'es mort, tu es dans un duel.
Mais si tu trouves dans cette dualité le troisième élément, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre moi et mon épouse, il y a un troisième élément qui est le jour du mariage représenté par le rabbin. Mais on s'en fiche, c'est Akadosh Baruch Hu en réalité. C'est-à-dire le troisième élément, c'est le troisième degré qui vient m'aider à former ce triangle. Donc c'est une rencontre du troisième type. Pas du troisième mec, tiens, du troisième type, tiens. Et ça, c'est le secret du tikkun. C'est-à-dire, à chaque fois que je pars du tikkun, je dois, en réalité, trouver l'élément qui va sortir d'entre nous deux. D'ailleurs, comment ça s'appelle l'élément qui sort d'entre nous deux, entre moi et ma femme? Un tinok. C'est les mêmes lettres que tikkun. C'est-à-dire, le tinok et le tikkun, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, le tinok qui vient de naître, le bébé qui vient de naître, c'est l'élément du troisième type, qui est le résultat entre ma femme et moi, c'est-à-dire entre les deux éléments, il en sortit un troisième, qui est en réalité l'unité divine. Moralité, ce troisième élément est bien plus grand, et que ma femme, et que moi. Il était déjà, mais il ne pouvait pas se dévoiler si ce n'est qu'en passant par nous deux. Et c'est la même chose au niveau de l'étude. Si j'étudie la Torah tout seul, il y a marqué, c'est comme si tu meurs. À tel point que les sages sont très très graves. Ils disent « Oh, chavruta, oh mituta ». Ou bien tu étudies en chavruta, ou bien tu es dans un état de mort. Tu as l'impression que tu étudies. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les sages viennent nous dire que seul tu ne peux pas développer quelque chose de l'ordre de la shrina. Alors que quand j'étudie avec mon ami, quelque chose va apparaître entre nous deux. Là, j'étudie avec vous. Il y a un élément que j'ai même pas prévu de dire qui est en train de s'installer entre nous. C'est-à-dire, j'ai permis, notre lien a permis à un troisième élément qui est la volonté divine de s'installer entre nous. D'ailleurs, toutes les lettres hébraïques, si vous faites attention comment on les écrit, elles sont toujours avec trois directions, trois branches. N'importe quelle lettre. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais si vous écrivez quoi que ce soit, c'est formé de trois lettres. C'est-à-dire le lamet, c'est 1, 2, 3. Le aleph, c'est 1, 2, 3. Le b, c'est 1, 2, 3. Le guimel, c'est 1, 2, 3. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le dalet. Le yud, il a 3 degrés. Il a la pointe d'en haut, ce qu'on appelle kotso chez le yud. Il a le corps du yud, il a une petite queue à la fin. Encore une fois, 3. C'est-à-dire que tu ne t'en sors jamais. Tu es toujours dans une structure de triangle. Tout est triangulaire dans notre monde. D'ailleurs, la Torah elle-même, elle est composée de 3 degrés. Torah, Nevi'im et Ketuvim. Encore un triangle. Ça commence à faire beaucoup, hein, quand même. Pourquoi la Torah ne comporte pas seulement Torah, Nevi'im ou je ne sais pas quoi? Tout. Et même l'étude de la Torah nous dit, le Rambam dans les halachot de Talmud, Torah, Perek, Aleph, halakha yud aleph, le'olam yeshalesh adam talmudo. L'homme doit diviser son étude par 3. Shlish, Torah shebichtav, shlish, Torah shebe'alpe, shlish, havana vehaskala, acharit, davar mereshito. Traduction. Même dans ton étude, tu dois toujours avoir 3 degrés. Comme quand tu manges. Entrée, plat principal, dessert. Encore un triangle. Même la Torah, c'est une consommation. On mange de la Torah comme on mange un repas. Et on doit le digérer, c'est pareil. De la même manière que je fais une bracha avant de boire quelque chose, je fais une bracha avant d'étudier. Le matin, si je n'ai pas fait la bracha, je ne peux pas étudier la Torah. Donc c'est une consommation. D'ailleurs, même les relations intimes, ça s'appelle une consommation dans le langage de la Torah. Donc nous sommes encore une fois dans un système triangulaire. Et la racine de cette halakha du Rambam, elle est dans le traité de Kiddushin à la page 30. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Amar Rav Sifra, je vous cite, Mishum Rabbi Yoshua. Rav Sifra nous dit au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, Le'olam yeshalesh adam shnotav, même la vie de l'homme doit être divisée en 3 parties. Shlish Mikra, un tiers de ta vie tu dois étudier, c'est la même chose, tu peux le faire tous les jours. Tu ne vas pas le faire 30 ans de Mishnah, 30 ans de Gemara et 30 ans de Machin. C'est-à-dire, à chaque fois que tu étudies, tu dois diviser ton étude en 3 parties pour bien comprendre. Mikra, Mishnah, Talmud. Combien de prières nous avons dans la journée? 3, encore une fois, mata, ça commence à bien faire. C'est-à-dire, Shacharit, Mincha, Arvit, c'est ce qu'on dit tout le temps, Shema, Israël. Qu'est-ce que c'est Shema? Shacharit, Mincha, Arvit. Ça veut dire que le Shema, Israël, c'est un triangle. Ça veut dire que les 3 tfilotes dans la journée, c'est un triangle. Je suis obligé de me former en triangle pour recevoir un message divin, car le mot tfila en hébreu ne veut pas dire prière, mais lien. Au pluriel tfila, c'est tfilim. C'est la même chose. C'est un lien. Un kesher. La racine en hébreu, l'ilkot. L'ilkot, c'est attaché. L'effet. La nuit, elle-même, est composée de 3 parties. Dit la Gemara dans le traité de Brachot à la page 3. Shalosh mishmarot haveh halayla. Ceux qui ont étudié la Gemara Brachot, au début, il a marqué que la nuit elle-même est divisée en 3 parties et entre chaque partie, Akadosh Baruch Hu rugit comme un lion. La première partie, c'est des signes que les sages nous donnent. Le l'âne, comment on dit? Vrai. Deuxième partie, les chiens aboient. Et troisième partie de la nuit, le bébé tète du lait de sa mère. En réalité, il fait référence aux 6000 ans de la création du monde. La Gemara dans le traité de Sanhedrin nous dit que le monde est divisé lui aussi en triangle. 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de jours messianiques. C'est la même chose. Alors le bébé, premier degré c'est l'âne, c'est-à-dire on ne comprend rien. Deuxième degré c'est les chiens qui aboient, on cherche, on se rapproche de l'homme. Et troisièmement c'est déjà le bébé qui tète du lait de sa mère, c'est en réalité les temps messianiques, où le peuple d'Israël est en train de téter du lait d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous sommes en réalité dans cette troisième partie de la nuit. Une autre Gemara dans Eruvin à la page 65. Adam Nikar Beshlosha Dvarim. L'homme est reconnaissable sur 3 choses. Kiso, Koso, Kaaso. Vous connaissez ça? C'est-à-dire, si tu veux savoir si tu te maries avec un mec, regarde 3 choses. Kiso, d'abord s'il est radin. Koso s'il boit beaucoup, et Kaasso s'il se met en colère. S'il est généreux, déjà un bon point. Vous savez, la générosité, c'est la plus grande des qualités pour un homme dans ce monde. D'ailleurs, même pour une femme. Un homme, pour se marier avec une femme, est marqué, comment est-ce qu'on doit savoir? Kala, la Gemara, la Mishnah, regardez, ils n'ont pas peur, les Chachamim, de parler. Kala, she'enea tovot, en kol goufa tsarich bdika. Regardez jusqu'où ils vont. Si tu vois une femme, tu n'as pas besoin de vérifier son corps, s'il te plaît. Regarde son œil, si elle a un bon œil, si elle est généreuse. Comment elle t'ouvre la maison quand tu invites des gens. Ou bien tu dois lui téléphoner 3 mois pour lui dire, j'ai invité quelqu'un, et elle te fait une tête comme ça. Tiens. La générosité, c'est la clé, Rabotai. Donc, Adam Nikar Beshlosha Dvarim. La même chose, Akadosh Baruch Hu apparaît dans notre monde. Il a combien de pieds, Akadosh Baruch Hu, pour apparaître dans ce monde? 3 pieds. C'est facile maintenant, tout est 3. Comment on les appelle? Shlosha, régalé. Shlosh Raglaï. Pesach, Shavuot et Sukkot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne vient pas encore dans un autre truc? Pourquoi il n'y a que 3 fêtes dans l'année? Les fêtes de Horaïta, comme on les précise, Pesach, Shavuot, Sukkot, parce qu'Akadosh Baruch Hu, pour descendre encore une fois dans ce monde, doit s'habiller dans un élément triangulaire qui apparaît sous cette forme-là. D'ailleurs, Pesach fait référence à quoi? Au temps. C'est là où le temps commence. C'est là où on a commencé à compter le temps. C'est le premier mois. Achodesh Zelachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu, Lachem Lechotcha Hashana. Shavuot, c'est référence à quoi? À l'homme. Je reçois maintenant un message divin. Donc c'est Shavuot, c'est le don de la Torah. Et Sukkot, c'est une fête qui correspond à la terre d'Israël, donc le lieu. Donc encore une fois, le lieu, l'espace et le temps. Le temps et l'homme. Petite conclusion intermédiaire. Le troisième élément, c'est l'élément qui est représenté par nos sages par Midat HaTiferet. Nous avons Chesed, Gvura, Tiferet. Tiferet, c'est la partie centrale, c'est la partie de l'équilibre, c'est la partie de la stabilité, c'est la partie qui, en fait, permet à l'homme de
pouvoir recevoir, de devenir un canal et un réceptacle à la lumière divine dans ce monde. Et il y a d'ailleurs une expression de Shlomo HaMelech dans Kohelet, chapitre 4, Ve'achuta meshulash, lo bimhera yanatek. Si tu veux une corde forte, prends trois fils et mélange-les entre eux. À deux, ils se coupent, mais à trois, ça devient quelque chose de très solide. Et ce chuta meshulash, bien entendu, ce fil à trois fils, cette structure de trois fois trois, c'est un exponentiel, c'est quelque chose qui te multiplie la puissance. C'est pas que tu as rajouté encore un fil. C'est exponentiel, ça veut dire que ça se multiplie beaucoup plus que de rajouter encore un. Et si vous regardez la structure de toutes les sphères spirituelles, bien vous avez toujours des triangles. Regardez l'homme, il est sous la forme de cette structure sphérotique. Puisque nous avons le Keter ici, la Chochma c'est le cerveau droit et la Bina le cerveau gauche. Donc encore une fois un triangle. Après tu as Chochma, Bina, Da'at, encore un triangle à l'envers. Après tu as Chesed, Gvura, Tiferet, encore un triangle. Après tu as Netzach, Hod, Yesod, encore un triangle. Tout est triangulaire. Tout est triangulaire. Comme des miroirs. Un triangle qui se reflète dans l'autre et un triangle qui se reflète dans l'autre. Et l'homme et la femme généralement elle est faite comme ça. Et l'homme il est fait comme ça. Donc c'est deux triangles qui se rejoignent pour former en réalité la protection de tout notre système messianique qui s'appelle David. Donc Magen, David. Et Magen c'est trois lettres. C'est trois anges, Michael, Gabriel et Nouriel. Magen, c'est la protection du roi David, c'est-à-dire du messianisme. Pourquoi les deux temples ont été détruits? Parce qu'ils sont encore une fois un et deux. Le troisième temple ne sera jamais détruit. Pourquoi? Parce qu'il est en réalité la structure éternelle de l'éternité. On vient de fermer le triangle. Maintenant, vous comprenez que ils étaient voués à la destruction déjà, le premier et le deuxième. Tant que tu n'as pas trouvé le troisième élément, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine de ta vie, tu es naze. Donc cherchez tout le temps le troisième point, sans arrêt. C'est-à-dire que je dois trouver en réalité, je vous le dis avec des mots simples, le dénominateur commun. Par exemple, tu as une situation qui s'est passée aujourd'hui, et tu as une situation qui s'est passée hier. Tu comprends rien du tout. À part si tu trouves le lien qui les attache, ça c'est le troisième point. Donc à chaque fois, il faut chercher le troisième élément, et c'est lui qu'il faut libérer de sa situation d'oubli qui s'appelle Mitzrayim, l'Égypte. Et là aussi, je ne rentre pas dans les parachutes, parce que sinon on en a jusqu'à dans 6 mois. Parce que l'Égypte n'est surtout pas un lieu, on s'en fiche. C'est un état de conscience. On est tous plus ou moins en Égypte, dans certains domaines, il faut que tu sors. Comment tu vas faire pour sortir l'Égypte? Mais il faut que tu trouves Moshe, qui est en toi. Qui se cache où? Dans l'élément liquide. C'est-à-dire dans le potentiel liquide, 60 à 15% de ton corps. C'est là où se trouve Moshe. Sinon tu tombes chez Paro. Paro, il est aussi dans ton corps. Il est dans ta nuque. Puisque le mot Oref, la nuque, c'est les mêmes lettres que Paro. Donc, moralité, où tu es avec la nuque dure, tu comprends rien du tout, tu es têtu, donc tu es Paro. Tu peux rien faire, tu t'en sors jamais, tu es têtu, tu es bloqué, tu es rigide. Ou bien tu es Moshe, tu es souple. On te met dans une boîte, ça marche aussi. D'ailleurs, quand Moshe est né, qu'est-ce qu'il est écrit? Que sa mère l'a caché combien de temps? 3 mois. L'âge. Qu'est-ce que c'est que tous ces codes? Je peux jusqu'à demain matin, j'ai même pas eu le temps de vous écrire tellement il y a des références. Juste j'ai marqué vite comme ça pour prendre quelques éléments au vol. Toute la structure, elle est faite comme ça. Le Beth Amikdash lui-même, il est fait de combien de parties? 3. Il y a la Hazara, le Kodesh HaKodashim. Encore une fois, tous les éléments sont triangulaires. Tu sors du Kodesh HaKodashim, donc c'est le troisième élément. Tu te trouves en face de toi, à droite, le Shulchan, la table, et en face la Menorah. Donc encore une fois, un triangle. Kodesh HaKodashim, donc le Haron, les deux chérubins, qui d'ailleurs, la parole divine sortait où? D'où elle sortait? Entre les deux. Encore une fois, du troisième élément, c'est là-bas où la parole peut sortir. Quel? Nahon. D'ailleurs, tout est par trois. La seule élément qui est, pardon, le cache.
N'achot. Nous sommes des mixeurs. Sparat Mixerovitch. N'achot. Tout est pareil. Les phalanges par 3, 3, 3, 3. La seule qui est 2, elle est secrète. C'est pour la fin des temps. Donc pendant la Havdalah, vous la cachez. C'est pour ça qu'on cache le pouce. Il faut rentrer le pouce pendant la Havdalah. Parce que ce 2, on n'arrive pas encore à comprendre. On ne sait pas encore comment le gérer. Mais en réalité, tout le reste, c'est des 3. Tout notre corps, il est fait par 3. Toute notre structure, elle est par 3. Quand Akadosh Baruch Hu se dévoile dans ce monde, c'est aussi par 3 degrés. On appelle ça dans le langage de la Chassidut, Or, c'est-à-dire la pensée, c'est une lumière. Ma'im, c'est un élément liquide. Rakia, un façonnage. Comme un bébé. Au début, il est dans la pensée. Après, il s'habille dans un élément liquide, la semence. Et après, il commence à se forger dans le corps de la mère. Donc, Or, Ma'im et Rakia, c'est quelle lettre? Amar, Baruch She Amar Behaya Haolam. C'est pas béni celui qui a dit et le monde fut batata en français, c'est n'importe quoi. Baruch She Amar, béni celui qui utilise ces trois codes, Aleph, Mem, Resh, Or, Maim, Rakia, Behaya Haolam. Baruch Omer, Veose. Donc nous aussi on doit être structuré par cette structure-là. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est tout simplement une thèse, une antithèse et une synthèse. C'est comme ça que nous devons fabriquer notre vie. Toda Rabba. Si vous avez des questions, on peut. Ken, il n'est pas parti au cours? Il n'est pas venu. C'est bizarre, hein? Il a eu peur. Ken. Dis-moi. Alors, le Vav, encore une fois, c'est à la pointe du Vav, le tout petit point du Yud, d'accord? Parce que quand tu poses ta plume, c'est déjà un début. Et après, tu as le corps du Yud et la prolongation. C'est-à-dire? Et le reste, c'est pareil. Tu as la pointe, tu tires, et là aussi, il y a une pointe, et après, tu tires un. Et le Dalet, c'est pareil. C'est pas un truc comme ça, comme c'est écrit. Tu as un petit Yud qui passe de l'autre côté. Tout est comme ça. Alors le même final, c'est en réalité une barre, une deuxième barre comme un noun et un vase qui ferme. Toujours, 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 toujours. Ken. Ken. Nakhon.
Quand des gens, par exemple, sont ici et qui éprouvent le besoin de tisser,
Ken. C'est un besoin naturel. D'accord. C'est un besoin naturel qui vient d'un trop plein. On appelle ça overdose. Ça veut dire que parfois, on n'arrive plus à jouer notre rôle, on n'en peut plus. C'est trop lourd pour nous. J'en ai marre, j'ai envie d'aller un petit peu me promener tranquillement. D'ailleurs, bien sûr, c'est une descente. C'est pour ça que tu kiffes. Quand tu sors, ne serait-ce que quand tu vas à Ashdod, va au bord de mer. T'as l'impression que c'est les vacances. Tu vas à Jérusalem, t'as l'impression qu'on te met dans une prise électrique. Qu'est-ce que vous avez? C'est Vadaï. Et plus tu quittes, plus tu sors, plus tu es dans le repos total. Parce que tu t'éloignes de ta responsabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Nevoa en dehors de la terre d'Israël. Parce que Dieu ne te parle pas de l'intérieur. Ici, c'est toute la journée comme si Dieu est à l'intérieur et il te pousse, il te dit, grandis, 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 grandis.
Et si on va un peu plus loin,
okay.
Et comme l'islam est à la mode, on peut voir par exemple une chose extraordinaire, c'est que pendant 70 ans en Russie, en Union soviétique, Dieu était attaqué de partout, l'athéisme était attaqué, mais aucun musulman n'a tué quelqu'un parce qu'on a insulté Dieu en Union soviétique.
Okay, mais ça c'est une...
leur...
Il faut bien comprendre que c'est des éléments de l'histoire qui s'habillent.
On dit que l'islam n'est pas idolâtre. Mais quand on voit ce que font les musulmans...
Okay. En fait, l'islam n'existe pas seul. L'islam, c'est l'enveloppe du christianisme. C'est-à-dire les chrétiens, en réalité, veulent montrer qu'ils sont cachés, mais ils s'habillent par l'islam qui fait leur travail. Donc quand ils sont seuls face à l'islam, ils ont peur. Mais dès qu'il s'agit de mettre Israël à côté, toujours ça penche vers l'islam contre Israël. C'est une structure, il faut comprendre, il y a marqué « Esav sonel et Yaakov », c'est une halakha. Halakha, c'est-à-dire ils ont une haine qui est à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire un certain travail, on représente en fait les données divines dans ce monde, et c'est difficile à admettre. Et nous-mêmes, on a envie de nous sauver de ça. On en a marre. Chacun de nous, à un moment donné, se dit « Ah, j'en ai ras-le-bol, quoi. » C'est dur à porter. C'est très dur à porter. Le travail que nous devons faire ici est un travail incroyable. Amzou Yassar Fili, Dieu nous a façonnés pour lui. C'est-à-dire on n'existe même pas pour nous. Pour une seule chose, c'est Hillati et Saperou, on est venu raconter sa louange au monde. C'est-à-dire on n'est que des... On est un chauffard, on est la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Difficile d'être la bouche d'Akadosh Baruch Hu sans arrêt, quand tu n'as même pas le droit à une petite déconnade, rien, un petit truc. Ken ? Il a fait. Alors, entre nous, il y a la Torah, le peuple et la terre. Torah Israël, Eretz Israël, Am Israël. C'est donc Kutcha Berichu, Oraita Israël, Chad Beron. Encore une fois, un triangle qui est un, une unité. Donc le triangle, c'est une unité. C'est ce que je voulais vous montrer dans ce cours, dans ce petit cours. Et ceux qui veulent nous voler cette identité construisent des pyramides. Zarma, c'est nous le triangle. Vous comprenez ? D'ailleurs, les Égyptiens mettaient les tfilines. Et les tfilines de la tête et les tfilines de la main. La différence, c'est que chez eux, à la place du bait, ils ont un serpent. Donc regardez dans les trucs des Égyptiens, ils ont les tfilines, là aussi. Il y a un petit serpent. C'est-à-dire il y a une structure circulaire, alors que chez nous, il y a une structure rectiligne. Et on a un chine et un chine. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Ça veut dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne vous demandera jamais, dans un cours de géométrie, de devenir le sujet que tu es en train d'étudier. Exactement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'ai pas à rentrer, à pénétrer dans le sujet que je suis en train d'étudier. Alors que la Torah, elle, quand tu l'étudies, tu dois la manger. Elle doit faire partie de toi. C'est-à-dire que maintenant, ça fait partie de mes gènes. Je dois être Torah. J'étudie pas la Torah. Je suis Torah. Ça change tout. C'est ça le Tselem. C'est pour ça que c'est trois lettres. Et d'ailleurs, puisque tu étudies aussi l'intériorité des choses, tu sais que le Tselem, c'est 90, encore une fois, c'est tzadik, c'est tous les lumières qui descendent d'en haut, le Lamed est le même. C'est la même chose, 3 à 3, dans une structure carrée de 4. Toda. Ok, le tuyau. Hein? Hein?